Bonjour, Audrey Vigoureux.
Bonjour, Firouz.
Voilà, j'ai pris ma plus belle voix de rockeuse italienne, Gianna Nini, pour parler des Athénéennes. Mais d'abord, on va parler de vous. De vous. Alors, vous êtes une maintenant vraiment notoirement connue à Genève. Vous faites partie de la vie culturelle genevoise. Mais vous nous venez d'Aix-en-Provence. Vous avez quitté les cigales, le chant des cigales et le chant de la ronde, et les calissons, pour venir ici à Genève. C'était vraiment la musique qui vous a motivé à quitter cette belle région?
Oui, c'est la musique, c'est le conservatoire, c'est un professeur qui enseignait ici, qui est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui, Sébastien Rissler. J'avais 17 ans et voilà, je me présentais aussi au conservatoire de Paris, et dans lequel j'ai été reçue 2 ans plus tard. Donc voilà, après j'ai fait les deux institutions en même temps, donc Paris et Genève. C'est comme ça que mes valises sont venues se poser ici.
Donc d'ubiquité déjà, très jeune.
J'ai toujours voulu l'avoir, mais je n'ai pas encore le secret. Mais j'aime beaucoup bouger.
Et comment vous avez pu mener de front à la fois Paris, les deux institutions sont très exigeantes, Genève, sans être épuisée? Enfin, vous jouiez vos gammes dans le TGV?
J'étais jeune, j'avais un super abonnement SNCF. Et puis, non, mais c'est un rythme à prendre. Après, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai fait 5 ans comme ça, j'en avais un petit peu marre, c'est sûr. Mais c'est aussi très enrichissant, parce que les deux villes sont très différentes. J'aimais bien le calme, j'aimais bien retrouver Genève. Et puis, si je reste seulement à Genève, encore aujourd'hui, j'ai besoin d'aller dans la capitale aussi, de bouger, de me nourrir de plus d'émulation, un rythme un peu plus soutenu.
Ce sont deux stimuli très différents qui vous sont nécessaires.
Oui.
Et puis, vous avez mentionné justement votre professeur Rissler, qui n'est plus de ce monde. Et à Paris, vous avez été reçu chez le professeur Rouvier.
Exactement, c'est chez Jacques Rouvier que j'ai rencontré très jeune. Il était à un jury quand j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque la médaille d'or au conservatoire d'Aix, j'avais 14 ans. Et il était au jury et c'est lui qui m'a dit « mais viens me voir à Marseille » parce que lui est marseillais. Et il avait une classe de perfectionnement, c'était des noms pas possibles à l'époque. Et j'étais le voir comme ça et c'est lui qui m'a dit « alors il faut te présenter au CNSM de Paris, mais on va attendre un petit peu, il faut encore bosser un peu ». Donc il m'a envoyé à Nice et à Genève. C'est lui qui m'a dit « à Genève, il y a Sébastien Rissler qui est super, va faire un tour là-bas ». Voilà. C'était une construction comme ça qu'on a.
La haute école de musique.
Exactement, où j'enseigne maintenant.
Voilà, j'allais le dire. Vous bondissez sur mes questions suivantes. Vous enseignez justement.
Oui.
Et ce flambeau que vous passez, c'est important pour vous de le maintenir?
Oui, c'est important la transmission. Ça apporte énormément aussi à soi. Et puis ça permet d'être constamment dans un questionnement et d'être dans la vie professionnelle actuelle. Parce que il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu ronronnant quand on a une carrière, etc. Puis en fait, d'être avec les jeunes gens, ça permet d'être vraiment en lien avec les demandes actuelles de la scène, les problèmes aussi, parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui pour les jeunes artistes. C'est vraiment une époque très très difficile. L'identité artistique, elle a beaucoup changé. On est énormément maintenant sur l'image, sur le paraître. Et c'est vrai qu'on s'éloigne un tout petit peu du fond et
de
l'essence de la musique. Et c'est très important d'être là pour les soutenir parce que c'est une voie extrêmement difficile, extrêmement exigeante. Et puis, il faut être très courageux pour choisir cette voie-là aujourd'hui, en 2023.
Et je rebondis sur vos propos. Vous mentionnez ce changement pour les jeunes musiciens. Est-ce que c'est lié à tout ce qui vient des réseaux sociaux, tout de suite cette accessibilité immédiate, mais aussi cette image que l'on doit donner?
Oui, en partie. Les réseaux, c'est aussi un outil formidable pour être en lien et pour la promotion. C'est vrai qu'il n'y en a pas de meilleur, en fait. Mais c'est aujourd'hui surtout qu'on demande aux musiciens, à l'artiste, de savoir tout faire. Avant, il y avait un impresario, un promoteur, un agent, des conseillers, le prof. Et puis aujourd'hui, l'artiste, il doit savoir développer son identité visuelle, c'est un nouveau code aussi. Savoir faire le community manager sur les réseaux, savoir trouver lui-même ses concerts, savoir faire son administration en lien avec tous ses concerts. C'est très compliqué, ça demande énormément de temps, c'est chronophage, ça prend du temps sur tout ce qui devrait être donné
à
la musique, en fait. Donc c'est de plus en plus de travail, je dirais.
Et vous mentionnez justement toutes ces activités. Sans bondir tout de suite aux Athéniennes, j'aimerais encore parler de vous. Pour vous, c'est très important de répondre à tous les dossiers que vous recevez, tous les artistes qui vous contactent, justement, vous considérez l'autre facette, si vous la connaissez, de ne pas laisser les gens sans réponse.
Voilà, alors malheureusement, je vais être très honnête avec vous, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes parce qu'il y en a beaucoup. Et puis sur plein de canaux différents aussi, voilà, via les réseaux, justement, il y a des gens qui m'écrivent parfois. Et c'est impossible quand on a des milliers de demandes de répondre à toutes. Mais on essaye d'être en contact, en tout cas le plus possible, avec les artistes qui nous sollicitent, d'écouter les projets. Moi, souvent, je dis, écoute, j'ai pas le temps d'écouter ton projet, mais je te contacterai quand je l'aurai écouté, aussi pour pas laisser sans réponse, etc. Mais oui, comme on est de l'autre côté de la barrière, on sait à quel point ça peut être frustrant, déstabilisant, avec cœur de solliciter une structure pour aller jouer, puis d'avoir aucune réponse. Souvent, on n'a juste aucune réponse. Quand on a ne serait-ce qu'un non, on est content.
Oui, ça peut être décourageant, sinon.
Bah, c'est plus que ça. Ça peut être, ça peut être un peu un effondrement. Il y a des gens qui c'est difficile.
On parlait tout de suite de passation par rapport aux enseignants et de passation aussi par rapport aux instruments. Vous avez reçu d'une de vos professeurs, il me semble à Aix, un piano dans son héritage.
Vous êtes super bien renseignée. Oui, ma toute première professeure du conservatoire d'Aix-en-Provence, Monique Oberdorfer, s'appelait. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. C'est un grand choc. Elle est décédée sur scène, en concert. Elle a fait un AVC. Et quelques mois plus tard, j'ai été contactée par son notaire. Et puis, elle m'avait donc mis sur son testament. Elle m'a légué son c'était un quart de queue Yamaha, qui est mon piano d'amour que j'ai encore à la maison, sur lequel je travaille encore. Et puis, moi, je ne viens pas d'une famille très, très fortunée. Et donc, je n'avais pas de piano. Je n'ai pas de piano à queue. Et donc, c'était pour moi le début de mon amour de la lecture de la musique, parce que le son était tellement magique et il y avait une telle portée, une telle ouverture avec un instrument comme celui-ci, qu'en fait je passais des nuits entières à lire des partitions. Je ne scotchais plus du piano, donc ça a vraiment été une étape très importante de recevoir cet instrument.
Émotionnellement aussi très, très fort.
Oui, ouais.
Et puis, par contre, vous mentionnez que la famille n'était pas forcément très riche au point de vous payer un tel piano. Il y avait un piano quand même dans la famille. C'est du grand-père.
Mon grand-père avait acheté un vieux piano droit qui avait servi à mon frère quand il prenait des cours de piano. Quand il était petit, mais il n'avait pas tellement croché. Je crois qu'il utilisait l'argent des cours pour les bonbons. Une fois, la prof avait appelé ma mère en disant « Mais vous ne m'avez pas payé ?» Puis en fait, il avait avoué « Mais j'ai été m'acheter des bonbons. » Donc, ils avaient arrêté assez vite les cours. Et puis moi, j'improvisais en fait sur ce petit piano quand j'étais petite. Et ma mère, justement, avait répondu à une annonce pour garder des enfants, pour se faire un peu d'argent. Et il se trouve qu'un des enfants qu'elle a gardé était le fils d'une professeure du conservatoire. C'est comme ça que j'ai commencé le piano, parce qu'elle venait à la maison, elle m'entendait improviser. Puis elle avait dit, mais il faudrait quand même lui faire des cours à cette petite, elle a quelque chose. Et puis ma mère avait dit, oh non, mais d'abord c'est cher. Et puis en plus, avec mon frère, ils avaient une expérience pas très heureuse. Et elle avait dit, on va faire un échange. Tu gardes mon fils, je prends ta fille en cours, et c'est comme ça que j'ai commencé.
Il n'y a pas de hasard, hein, ou alors les hasards sont bien faits.
Joli destin, ouais.
Voilà.
Joli destinée.
Et à propos de passation, quand vous êtes à Genève, vous rencontrez Cyril par l'intermédiaire de Marc Pernou,
oui.
Et puis vous rencontrez également Valentin Perry,
oui.
Et à vous trois, vous fondez les Athénéennes dans la fameuse salle de l'Athénée.
Exactement, la salle de l'Athénée 4, qui est une salle assez confidentielle, mais très belle en vieille ville. Et on avait déjà commencé à organiser des concerts dans une galerie d'art à l'époque à Genève, qui était une galerie d'une copine. Aux Eaux Vives, exactement. Impressionnant.
Et, non, mais jusqu'à là, femme tronc, ça marche.
Et ça marchait, ça cartonnait. En fait, c'était au chapeau, on ne faisait pas payer d'entrée, on passait avec un chapeau, on faisait nous-mêmes des petits tapas et tout, parce qu'on est tous les trois très bons vivants. On servait l'apéro et on faisait du classique et du jazz.
Et de la création.
On faisait des petits fly, on écrivait des SMS et puis vraiment ça cartonnait. On faisait venir notre réseau, donc il y avait des gens qui venaient de Paris, etc. Des gens vraiment super qui venaient pour rien, parce que c'était nos copains. Et puis après, c'est devenu un peu petit, cette galerie, puis pas très adaptée. On entendait encore le bruit de la route, etc. Et donc, on est allé s'installer à la salle de l'Athénée 4. Et puis, pareil, là, ça a bien fonctionné, la formule convivialité, plusieurs styles de musique avec exigence artistique.
Et la bonne chère en fin de concert.
Avant, au milieu, pendant, tout le temps. Et voilà, on a fait 2010-2015 à l'Athénée 4. Et puis les dernières éditions, bah, il y avait des gens partout sur les escaliers, etc. C'est une salle, on mettait 180 personnes, mais c'était vraiment le maximum. Et après, on a déménagé à l'Alhambra, qui est une salle de 800 places, et au Temple de la Madeleine, et à l'Abri, à la Lombard. Et puis on a pu vraiment ouvrir un peu. Et puis voilà, le festival s'est bien développé depuis.
C'est développé au cœur de la cité, en plus. Oui. C'est le public qui vous a suivi.
Oui, le public nous a suivi. Le virage n'était pas évident, parce que c'est vrai qu'on passait d'une jauge de 150 à 800. Mais ça nous a permis vraiment aussi de faire des projets beaucoup plus ambitieux. On a un grand plateau. Au niveau de la technique sur le plateau, ben voilà, toute la sonorisation, tout, enfin, c'est génial.
L'acoustique.
Quoi. L'acoustique, c'est vraiment une salle idéale. Il y a aussi un grand écran de cinéma, ce qui est vraiment génial pour cette édition, la 12e édition, qui rend hommage au cinéma. Donc voilà, on a été très heureux de ce changement. Et là, je crois qu'on a trouvé un bon format, une bonne vitesse de croisière. On a commencé hier, c'était une soirée fantastique. Voilà.
Audrey, je reviens tout de suite aux Athénéennes, mais encore passation. Quand vous étiez aux Eaux Vives, un mécène anonyme vous offre un Steinway, qui est un peu le Stradivarius des pianos.
Non, alors pas anonyme. Et puis, c'était un monsieur d'un certain âge, extrêmement cultivé.
Mélomane.
Il récitait Shakespeare par cœur, enfin bon, vraiment un type incroyable, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un autre ami. Et puis on faisait plein de soirées musicales où on jouait la nuit, on déchiffrait, on buvait un peu de vin, etc. Et puis il y avait un lieu où il n'y avait pas de piano, et puis moi, bon bah voilà, il avait un peu d'argent, et puis un jour il m'a dit: oh, mais moi j'aimerais bien vous offrir un piano. Et puis voilà, puis un Steinway, parce que vraiment je trouve qu'il faut avoir un Steinway quand on est musicien à partir d'un certain niveau. Puis on s'est mis à chercher, à la base moi j'étais partie sur un plus petit piano, et puis je connaissais un facteur de piano à Aix-en-Provence qui m'a dit: Audrey, j'ai trouvé un piano, c'était une occasion, hein, à Paris, extraordinaire, un Steinway de concert, il est en parfait état et il est le prix d'un demi-queue, quoi, en fait. Donc je suis allée l'essayer, c'était une pianiste qui voulait s'en séparer parce qu'elle n'avait juste plus la place, mais effectivement il avait très peu servi. Clavier en ivoire encore, parce qu'il est avant les années 80. Magnifique piano avec des basses profondes, vraiment sublime instrument, donc il y avait quelques travaux à faire dessus pour le repimper. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ce mécène incroyable, Claude, m'a offert ce piano. Ce piano est devenu ensuite la première pierre à la fondation du Festival des Athénéennes, parce que c'est ce piano qu'on a mis à la salle de l'Athénée 4. Il sonnait merveilleusement là-bas. Et ça nous a permis de faire tous les concerts, parce qu'on n'avait pas de budget au début, avec ce piano-là.
Et de permettre à des musiciens de pouvoir jouer dessus.
Voilà, tous les musiciens qui se sont produits à l'Athénée 4 ont joué ce piano, ils l'ont tous adoré. Et puis maintenant, il est au Temple de la Madeleine, où nous faisons des concerts aussi. Donc c'est un piano qui continue de rayonner, de vivre, donc c'est une jolie histoire.
Alors Audrey, vous avez mentionné que hier soir vous aviez le coup d'envoi de cette édition, la 12e, qui est consacrée à la musique classique, jazz, composition contemporaine et le cinéma.
Voilà, parce qu'en fait les Athénéennes, comme on a plein de styles de musique, chaque année on tisse la programmation autour d'une thématique, d'un lien, pour pouvoir aussi donner un peu de cohérence à tout ça. Et cette année, on rend hommage au 7e art. Donc, on a voulu faire ça. D'abord, on est assez cinéphile. Moi, j'adore le cinéma. Et puis, c'est un secteur qui a été vraiment très durement touché, là, récemment. Pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause des nouveaux médias, des changements, des plateformes de streaming. L'histoire d'amour entre la musique et le cinéma, elle est tellement riche et vaste, et puis elle a commencé au tout début, en fait, en 1895, quand les frères Lumière ont fait leur première projection, il y avait déjà un piano, après il y avait le cinéma muet, après il y avait le cinéma chanté, quand il y a eu le cinéma parlé, il y a eu les premières compositions vraiment de musique de film. Et dans le cinéma, il y a énormément de grandes œuvres du répertoire de musique classique, jazz et contemporaine qui sont utilisées. Et souvent, le public ne sait pas forcément quelles sont ses œuvres, et que c'est un compositeur du XVIIe siècle, par exemple. Donc on a voulu vraiment bâtir une programmation autour de ça, aussi rendre hommage aux compositeurs de musique de films comme Georges Delerue, John Barry, John Williams, Michel Legrand, Nino Rota, exactement. Et aussi rendre hommage aux films sur les musiciens. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a tissé cette programmation. Donc voilà, après je peux vous donner 1000 exemples.
Allez-y. Parce qu'il y a,
ben, par exemple, hier, on avait l'orchestre Consuelo, on a eu un magnifique concert. Ils ont donné la première symphonie de Beethoven, qui est entendue dans énormément de films, notamment dans People I Know. Ensuite, ils ont donné Fratres d'Arvo Pärt, qui est la musique lancinante, qui est tout le long de There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Et ils ont terminé avec le prélude de l'Eliebostod de Tristan et Isolde de Wagner, qui est littéralement tout le générique, qui est le moment le plus sublime pour moi, de Melancholia de Lars von Trier, qui est une fresque picturale comme ça, dingue. Et c'était magnifique. Voilà. Et ben, ce soir, le 2 juin, on va avoir un West Side Story revisité par le Amazing Keystone Big Band. Donc c'est la partition de Bernstein, évidemment, mais adapté un peu plus jazz pour un big band jazz, avec Naïma Naouri qui sera dans le rôle de Maria. Donc ça promet d'être aussi vraiment assez incroyable.
Et intense.
Intense. Et puis en première partie, on a un duo de deux pianos, donc c'est deux pianos à queue, tête bêche comme ça, et qui vont donner un programme principalement de musique américaine, notamment la suite Alleluia Junctions de John Adams, qui est la musique qu'on entend tout le long du merveilleux film Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Voilà. Et puis en troisième partie, on aura Lucie Antunes, qui est une percussionniste surdouée, qui transforme la scène en un véritable dance floor, mais tous les sons qu'elle fait sont produits live en fait. Donc c'est très très impressionnant, ils sont 7 sur scène ce soir. Et là, c'est pas présent, c'est présent dans aucun film, puisque c'est une création, vraiment son dernier disque est sorti il y a un mois, Carnaval. Mais c'est une musique extrêmement cinématographique et même cinétique, parce qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle comme ça, donc qui fait penser à une bobine, qui est, voilà. Donc il y a vraiment des projets très différents. Et ce soir encore, on finit, parce que aux Athénaïs, on aime beaucoup la fête.
On finit les afters.
Les afters. On finit avec un DJ set de Jean-Alexandre Blanchet, qui est musicien et DJ, mais qui est aussi un magnifique comédien de théâtre et au cinéma aussi, et à la télévision. Notamment, il était dans le duo des Gros Cons sur TSR et TF1, je crois. Et Jean-Alexandre, là, c'est un projet inédit qu'il fait ce soir. Il va mixer principalement des pièces de Lalo Schifrin, donc compositeur de musique de film des années 70. Et il a construit, parce qu'il sait tout faire, Jean-Alexandre, vraiment, il est polymorphe. Il a fait des montages vidéo de clips, de bandes-annonces des années 70, qui seront projetés à l'Alhambra en boucle pendant 3 heures, pendant tout le DJ set. Donc voilà, ça va être aussi une manière assez festive et toujours hommage au cinéma de terminer cette soirée.
Et ludique. Et dans cette programmation consacrée au 7e art et à la musique sous toutes ses formes, il y a John Malkovich, il y a Tex Avery.
Oui, alors Tex Avery, ça c'est ce dimanche. Vraiment, moi je pourrais jouer à fond. C'est irrésistible, ces courts-métrages. Et Dimitri Soudoplatov, qui sera le chef de l'Orchestre de Chambre de Genève, il a fait un travail remarquable. Parce qu'il est compositeur aussi, il est arrangeur, c'est de nouveau un cerveau un peu spécial. Il a été chercher, en fait, il y a beaucoup de... Pardon, je rembobine. Il y a beaucoup d'œuvres de musique de Tex Avery qui ont été perdues, des partitions. On ne les trouve plus quand il y a eu le travail d'archivage. Donc en fait, il a écouté les courts-métrages et il a repiqué d'oreille. En fait, il a réécrit toutes les partitions d'orchestre en les réarrangeant, en redistribuant pour l'orchestre, en rajoutant, en réadaptant, etc., plein de choses.
Un travail de
donc,
titan.
C'est un travail de titan qu'il a fait. Et puis, donc, ça sera aussi assez inédit. Et on entendra, on verra des courts-métrages de Tom et Jerry, de Bip Bip Coyote et de Titi et Grosminet sur le thème de la course-poursuite. Donc ça, c'est le 4 juin à 17h, avec, on l'espère, plein d'enfants. On offre le goûter. Et puis, évidemment, on a la venue exceptionnelle de John Malkovich le 10 juin dans un magnifique projet qu'ils ont titré « Report on the Blind » parce que c'est le titre du texte extrait de « Heroes and Tombs » de Ernesto Sabato, écrivain argentin. Alors, c'est un texte extrêmement noir et très intense. Le propos, c'est « Le monde est dirigé par des aveugles ». Et donc, c'est assez actuel, parce qu'évidemment, c'est très métaphorique. Et John Malkovich va dire ce texte, va déclamer ce texte sur la musique d'Alfred Schnittke, qui est le concerto pour piano et cordes, qui est vraiment une musique incroyable, une intensité rare. Et en prélude à ce projet, on entendra l'adagio pour cordes de Barber, qu'on entend dans énormément de films aussi, notamment Platoon. J'y pense juste comme ça, mais je ne me souviens plus tous les films dans lesquels il est présent, mais il y en a énormément. Et en seconde partie, l'Orchestre de Chambre de Genève va rendre hommage là vraiment au compositeur de musique de film, en présence de John Malkovich. Et ça sera un peu surprise, mais il y aura du Michel Legrand, du John Barry, du Nino Rota, et j'en passe.
On imagine que pour avoir un programme si intense, si dense, il y a du travail en amont pendant plus d'une année.
Ah oui, c'est en tout cas une année de travail, ouais.
Et vous faites marcher tous vos contacts pour avoir toutes ces possibilités, toutes ces propositions.
Voilà, c'est une chance, c'est que quand on est musicien, on connaît les autres musiciens. Et on est au cœur des projets. Donc c'est aussi un atout pour pouvoir tisser cette programmation.
Quand les Athénaïennes ont vu le jour, il y avait trois fées sur leur berceau, vous-même. On a mentionné Marc Pernoud et Valentin Perry. Quelles sont les propositions que vous proposez cette année ?
Alors, Valentin, lui, il est pianiste aussi. Il a fait ses classes de musique classique, magnifique pianiste. Et il est aussi compositeur. Donc lui, il a aussi fait de la musique électronique. Donc il va plutôt aller choisir les projets de création. Marc, c'est un pianiste de jazz, donc il va plutôt choisir tout ce qui est jazz.
Et puis, l'entendra demain.
On l'entendra demain, mais oui, il faut absolument venir. Alors, c'est pas dans le cadre des Athénéennes, mais il a fait un projet fou. Il a écrit un concerto pour piano et orchestre qui sera donné en création mondiale demain 3 juin à 11h au Victoria Hall avec l'Orchestre de la Suisse romande, donc c'est pas rien. Et c'est un concerto jazz, évidemment, et ce sera magnifique, ce sera lui au piano, donc voilà, ça c'est immanquable, moi j'y serai évidemment. Mais oui, donc Marc, plutôt les projets jazz, et moi je m'occupe de plutôt les projets musique ancienne, musique classique, et aussi musique actuelle, plutôt les troisièmes parties, les DJ sets, etc., parce que c'est une scène qui m'intéresse beaucoup aussi.
Voilà. Et vous disiez que vous êtes les trois bons vivants. La musique et la bonne chère vont de pair, toujours.
Je sais pas, mais en tout cas, pour
les
nous,
agapes,
c'est sûr.
Les nectars.
Oui, exactement. Des bons flacons, de la bonne bouffe. Non, mais oui, on est...
Avec modération.
On est bon vivant, ça c'est sûr. Mais ça s'exprime dans plein de choses, dans une boulimie de plein de choses, de voyages, de gastronomie, sous toutes ses formes, de littérature, de cinéma, justement, de théâtre.
Et on pense à certains compositeurs, on se dit qu'ils ont goûté aussi au plaisir de la vie.
Ah bah presque tous, hein.
Ouais. À part Salieri, peut-être.
Ah oui, mais lui... Et encore, pas sûr.
Et pour revenir aux Athénéennes, est-ce que... Il y a des soirs que vous recommandez vivement, on l'a compris, John Malkovich, Tex Avery avec les enfants, mais est-ce qu'il y a des soirs qui sont peut-être des perles que les gens ne soupçonneraient pas ?
Oui, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est une question piège quand on dit qu'est-ce qu'il faut absolument pas manquer, c'est, quand on a fait la prog, c'est très difficile de répondre à cette question. Le 3 juin, demain soir, donc samedi 3, c'est vraiment une soirée magnifique. On a d'abord l'ensemble Jupiter, qui est peut-être l'ensemble de musique ancienne le plus sublime du moment, vraiment, c'est des musiciens exceptionnels. Et ils vont donner un programme Handel Vivaldi, avec la fameuse Sarah Bond qui est dans Barry Lyndon, par exemple, des musiques qui sont dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Voilà, ça sera très beau. En deuxième partie, à 21h30, on a le trio d'Ado Moroni, Jola Barbera et Eddie Gomez. Et alors, il faut savoir que Jola Barbera et Eddie Gomez, c'était la section rythmique originale de Bill Evans, donc c'est pas rien. Ils ont 81 piges, ils ont pris leur van avec leurs instruments et ils vont venir sur la scène de l'Alhambra donner un concert hommage à Bill Evans demain qui s'appelle Kind of Bill. Et voilà, c'était les musiciens qui étaient avec Bill, donc c'est vraiment tout simplement incroyable de les avoir sur scène. Et en troisième partie, on a du jazz manouche, ça va être super. Ça, c'est hommage à Django Reinhardt et c'est des musiciens de Paris, d'Israël et de Russie. Ils s'appellent Djouvd Djounaïevski. Transatlantic Five, j'arrive jamais à le dire correctement, mais c'est à peu près ça. Et voilà, c'est une manière de finir la soirée en beauté. Ça sera à l'Alhambra Club, au deuxième étage, et c'est entrée libre. Donc voilà, tout le monde peut venir. C'est gratuit. Ça, c'est pour le premier week-end. Ensuite, on va au Temple de la Madeleine. Et là, on a des petites perles, justement, dont vous parlez. Parce que c'est une ambiance beaucoup plus intimiste, confidentielle.
Et on avec le fameux piano.
Avec le fameux piano. Et par exemple, il y a le pianiste Jean-Marc Louisada, qui est un pianiste français.
Cinéphile.
Je ne connais pas plus cinéphile que lui. Il a vraiment grandi là-dedans. Il connaît tous les films des années 40-50. Tout, le réalisateur, là, les acteurs, il est incroyable. C'est vraiment un passionné. Et lui, il vient de sortir un disque qui s'appelle Au cinéma ce soir. Et c'est... Bon, voilà, tout est dans le titre. Et il joue uniquement des musiques qui sont dans les films de Bergman, Louis Malle, Visconti, et j'en passe, Kubrick, justement. Et c'est un magnifique programme où on entend des œuvres de Brahms, de Mozart, de Nino Rota, de Ligeti. Voilà, ça sera très, 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 très beau. C'est vraiment un homme profond. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très généreux dans ce qu'il donne sur scène et dans son contact avec le public. Très enrichissant, qui est un pédagogue incroyable aussi, qui est invité dans le monde entier comme jury ou comme professeur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la transmission et ça se ressent beaucoup quand il est sur scène. En plus, il y aura une petite création vidéo avec des images des films en filigrane, comme ça, pendant qu'il joue les œuvres qui sont présentes dans les films. Et dans la même soirée, il y aura Gabriel Stern, qui est un tout jeune pianiste de 30 ans, qui sort de la HEM de Genève et qui est remarquable pianiste, qui a enregistré toutes les études d'exécution transcendante de Liszt, qui est un disque qui a été remarqué par la critique internationale. Et là, il donne un programme Liszt dans le cinéma, parce qu'il y en a beaucoup dans le cinéma. Il y aura notamment Les Funérailles, qui sont dans Merci pour le chocolat de Chabrol, Les Jeux d'eau de la Villa d'Est, qui sont dans Visconti. Et ça sera tout éclairé à la bougie, ça sera 21h30, donc on va essayer de créer une ambiance aussi un peu énigmatique. Ça, c'est le 5 juin, donc ça va être une très très belle soirée aussi. Le 7 juin, aussi au Temple, nous avons le trio de Nicolas Masson, Valentin Liechti et Rob Luft. Et ça, ce sont trois musiciens exceptionnels de jazz. Et eux, ils vont faire un programme inédit aussi en s'inspirant de film de Claude Sauté, Un cœur en hiver, donc dans lequel il y a le trio de Ravel. Donc je pense qu'il va y avoir des petites citations de Ravel par-ci, par-là. Et voilà, on va découvrir avec vous ce qui va se passer ce soir-là, parce qu'on sait les inspirations qui seront présentes dans ce concert, mais ce sera une création. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux conseiller encore? C'est difficile. Le 9 juin, le quatuor Zaïd, qui est un quatuor de jeunes femmes exceptionnelles, avec Julien Quentin, m'ont donné le quatuor de Malheur, qu'il a écrit quand il avait 18 ans, et qui est la musique présente tout le long de Shutter Island de Martin Scorsese. Magnifique quatuor. Et ensuite, elles vont donner le quatuor La jeune fille et la mort, évidemment, dans le film éponyme de Polanski, La jeune fille et la mort.
Avec Sigourney Weaver.
Avec Sigourney Weaver, incroyable film, très, très dur, mais il m'a beaucoup marqué. Voilà, et le 8, hommage à Ennio Morricone par l'harmoniciste Grégoire Marais. Voilà, ça sera le 8 à 21h30 à l'Alhambra. Évidemment, on finit en beauté, le 10 avec John Malkovich, on en a parlé tout à l'heure.
Quel programme, c'est impressionnant. Donc on imagine comment vous avez dû travailler en amont. Vous avez mentionné beaucoup de personnes, vous avez oublié de vous mentionner. Vous êtes à la fois enseignante à l'HEM, comme on l'a dit tout à l'heure, chambriste, concertiste. Je crois que vous préférez la musique de chambre, il me semble.
J'adore la musique de chambre parce que on partage. Mais j'aime aussi beaucoup le récital et le répertoire symphonique. Et là, effectivement, le 6 juin au Temple de la Madeleine, on va jouer la plus belle musique du monde, le trio opus 100 de Schubert, le deuxième trio de Schubert. Alors, il est présent dans un nombre incalculable de films, mais notamment dans Barry Lyndon de Kubrick, le deuxième mouvement. Voilà, donc ça c'est un vrai chef-d'œuvre et je serai accompagnée de deux magnifiques musiciens, Pierre Fouchenre au violon et François Salk au violoncelle.
Ça donne vraiment envie. En plus, on sait qu'il y a les tapas après, donc ça donne doublement envie.
Et des vins locaux. Et des très bons vins de Dardanie.
Ah voilà. Et en plus, vous continuez, enfin, vous êtes toujours avec ce don d'ubiquité incroyable, Audrey. parce qu'il me semble qu'il y a un disque qui est imminent.
Sur le feu, voilà.
Et il est plus que sur le feu. Enfin, si c'est du vinyle, il va fondre.
Non, il est enregistré. Je viens d'enregistrer un disque et il sortira probablement cet automne. Voilà. Il est sur le feu, il est en phase de montage. Voilà. Mais effectivement.
C'est les sonates ?
Non, c'est principalement des nocturnes de Chopin, mais pas que, avec des petites surprises. Voilà.
Avec des surprises. Et un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Apnée surveillée, des poèmes.
Voilà, un recueil de poésie qui est sorti l'année dernière. J'ai toujours écrit des petits textes comme ça, puis un jour, un éditeur très sympa qui m'a dit « Mais tu veux pas en réunir une trentaine ?» Et puis on l'édite, voilà.
Et donc vos poèmes, la musicalité est toujours là.
Je pense que c'est une des caractéristiques, parce que j'adore les jeux de mots, et quand j'écris, j'entends. En fait. Donc je pense que forcément c'est lié.
Ça va de pair. Merci pour ce beau programme, Audrey. Merci de nous avoir consacré du temps.
Merci à vous.
Et merci de m'avoir entendue.
Bah, je vous ai très bien entendue, Firouz. Merci beaucoup.
Merci, Audrey.
Merci.
Et bon festival.
Merci, on espère vous voir.
Bien sûr.